voudrais vous raconter l'histoire du fantasme, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un écrivain qui a eu le courage de tout plaquer, son métier et son petit revenu régulier, pour se donner sa chance. Écrire, vivre de l'écriture, ne faire que ça. Écrire comme on respire, inspirer le monde, la société, ses contemporains, et puis expirer sur son clavier, de roman en roman. Dans son courage, il est aidé, porté par un fantasme, le succès rapide, foudroyant. Ce scénario, car un fantasme est toujours un scénario avec une scène et des personnages, ne le quitte pas. Prix Goncourt du premier coup, 500 000, 700 000 exemplaires vendus, des traductions dans le monde entier. Il a déjà les mots tout jeune de sa déclaration après l'attribution du prix. Il rêve éveillé et c'est pourquoi il se lève du bon pied et le cœur en joie, déjà à l'ouvrage. Sauf que le succès ne vient pas. En tout cas, pas comme ça, pas d'un coup, pas foudroyant. Il vient petit à petit sur la pointe des pieds. Il pointe son museau peu à peu sur la scène du réel. Et figurez-vous, il y prend goût. Il aime cette progressivité, son lectorat qui grandit doucement. Doucement mais sûrement. La vie lui apprend l'humilité et la joie d'avancer sur son chemin. À son rythme, à moins que ce soit le rythme de la vie même. Ce n'est pas lui qui décide, c'est la vie, ce sont les autres, c'est le réel peut-être. Parallèlement, il continue à fantasmer. Il fait toujours ce même rêve éveillé de succès foudroyant. Et d'ailleurs, ce fantasme vient nourrir son rapport au réel. Il en parle chez son psy, sur le divan, il l'écoute, l'entend. Il entend ce que ce fantasme dit de son rapport à son père, à son enfance, à son époque aussi. Mais il revient au réel avec de plus en plus de plaisir. Jusqu'à cette découverte, cette révélation, presque une épiphanie, il préfère le réel. C'est un peu comme l'amour à plusieurs. Il avait eu longtemps ce fantasme de triolisme, et puis il ne l'avait jamais réalisé. Il avait aimé l'excitation, l'imagination, il avait aimé le voyage, mais aimé plus encore le retour au réel, l'amour à deux. Si le fantasme est de l'ordre de la jouissance, voire de la jouissance inconsciente, le réel nous donne des plaisirs et même des joies plus conscientes, palpables. La joie, écrit Clément Rosset dans son livre La Force Majeure, a toujours maille à partir avec le réel. Regardez ce qui vous met en joie et vous verrez que c'est toujours quelque chose de réel. La terre sous vos pieds, l'eau chaude sur votre corps, ce verre de Bourgogne dans votre main, le corps de l'être aimé, ce corps dans vos bras, tellement plus réel, plus solide qu'un fantasme. Alors faut-il ou pas réaliser ces fantasmes ? Faut-il se détourner des jouissances fantasmagoriques pour s'attacher à goûter toutes les joies du réel ? Pour en parler ce matin, j'ai la grande joie de recevoir l'écrivain et réalisateur et dramaturge David Fonkinos, qui sort justement aujourd'hui même un film à sketch, Les Fantasmes, et qui nous a rejoint dans la caverne bien réelle de France Inter, sous le soleil de Platon, pour nous parler de sa vie, de ses désirs et de ses fantasmes.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
David Fonkinos, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous voir. Vous allez bien ?
Très très bien, et vous ?
Bah ça va. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes un homme qui fantasmait beaucoup ?
Je pense qu'on fantasme tous. La vie même est une machine à fantasmes. On se rêve toujours quelqu'un d'autre, on rêve d'un ailleurs. On a toujours la possibilité voilà, de voyager de soi-même à travers le fantasme. Ça ne veut pas dire qu'on est frustré, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux, mais je pense qu'on est, sans cesse un produit de nos fantasmes.
D'ailleurs, quand on voit tous vos livres, vos films, vos pièces de théâtre, y a chez vous quelque chose de très... j'allais dire très fluide, enfin vous écrivez beaucoup, notamment ça vient bien quoi. On a l'impression que, d'ailleurs je vous ai connu jeune quand vous n'aviez pas encore le succès que vous avez et vous écriviez beaucoup, déjà même avant d'être publié, parfois il y avait un livre par mois je crois, ou tous les deux mois.
Un livre par mois, non quand même pas, non c'était un livre par an, mais je faisais que ça.
Oui.
Et c'est vrai que parfois même mon éditeur me freinait parce que j'étais dans une sorte de boulimie d'écriture, ça c'est certain.
Oui, je parlais même, je veux dire, des livres avant le premier publié. Il y en avait beaucoup en tiroir et il me semble que pour avoir cette inspiration, on doit être, je dirais, plugué quand même sur ses fantasmes, plus que sur le réel, non ?
En tout cas, les livres avant le premier roman, je pense que tous ceux qui écrivent, tous ceux qui ont le fantasme peut-être d'être publiés un jour, ont plein d'histoires en tête, de romans. Moi, c'est vrai que j'ai écrit peut-être entre 8 et 10 livres avant d'être publié. Et je pense que c'était des livres de brouillon. Oui. On apprend à écrire d'une certaine manière avant le premier roman.
Et alors, le film que vous sortez, là, Les Fantasmes, d'abord, est-ce que vous pourriez nous énumérer l'ensemble des fantasmes? D'abord, je précise quand même le casting, parce qu'il est assez hallucinant. Jean-Paul Rouve, Karine Viard, Ramzi Bedia, Joséphine Japy, Denis Podalydès, Joséphine Demeau, Nicolas Bedos, Carole Bouquet, Monica Bellucci, c'est assez hallucinant comme casting. Est-ce que vous pourriez nous énumérer les fantasmes? Je crois qu'il y en a 6 ou 7.
Il y en a 6.
6, voilà, ouais. Et nous dire celui qui vous touche le plus.
Alors, c'est assez... effectivement un film sur les fantasmes, donc on a voulu à la fois avec mon frère raconter des fantasmes dits classiques, on va dire, voilà, le premier par exemple, Denis Podalydès et Suzanne Clément, ils sont ensemble depuis 20 ans, on est dans l'usure un peu du couple et du désir, et ils vont se mettre à jouer des rôles, voilà, pour pouvoir pimenter leur vie de couple. Karine Viard et Jean-Paul Rouve, c'est un fantasme de se filmer, de se regarder en train de faire l'amour, voilà, des fantasmes plus classiques. Et puis il y a d'autres fantasmes dans le film un peu plus extrême, un peu plus tordu, si j'ose dire, comme celui de la dacryphilie, être excité par les larmes de son conjoint, ou la saurophilie, être attiré sexuellement par la sœur de sa compagne, c'est le cas de Ramzi dans le film, ou la thanatophilie, être excité par la mort, ou le sketch avec représenté par la jeune génération, celui de ne plus faire l'amour.
La sexualité
qui est aussi un plaisir, voilà, de se mettre en, comment dire, sur le banc de touche du plaisir sexuel.
D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié celui-là, le fantasme de ne pas faire l'amour, mais ce que j'ai apprécié, c'est que justement, à un moment, ils ont vraiment du désir. Et on a l'impression que ce qui les excite davantage, c'est pas leur fantasme, mais de le trahir. Oui, est-ce que parfois c'est ça aussi un fantasme? C'est quelque chose qui alimente qui met en branle l'imaginaire, mais c'est peut-être quand on lâche et qu'on retrouve le réel, ce qui était un peu l'idée de mon édito au début, qu'on retrouve une excitation plus forte, paradoxalement.
Vous avez complètement raison. Alors, à travers ces fantasmes, il y a tout type de rapport. C'est pour ça que pour moi, le fantasme, c'est vraiment le reflet de l'intimité absolue. Il y a les fantasmes qu'on subit. Il y a les fantasmes qu'on partage. Il y a les fantasmes qu'on regarde en permanence, avec lesquels on joue d'une manière extérieure. Et puis, vous avez raison, on peut avoir un plaisir à un moment donné de l'assouvir. Sur ce fantasme de ne pas faire l'amour, c'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus fréquent. On s'est documenté.
Mais est-ce que c'est vraiment un fantasme,
ce film? C'est un plaisir qui peut, dans le film, il est exprimé sous la forme d'un fantasme du couple qui dure, en ayant l'idée que la sexualité est quelque chose qui peut déconstruire, ou en tout cas, finalement, abîme la valeur d'une union, d'une certaine manière. C'est en tout cas le point de vue de ces personnages-là. L'idée de se dire que, voilà, en ne faisant pas l'amour, on conserve une sorte de, voilà, d'identité assez pure, si l'on ose dire. Et puis, ça n'empêche pas la tendresse. Donc c'est la limite qui est un peu incompréhensible pour l'entourage.
Il y a une scène très drôle dans le film qui donc sort aujourd'hui. Ils sont en train de craquer, je sais pas pourquoi, ils ont bu, ils arrêtent d'être asexuels et ils se sautent dessus, ils sont assez jolis d'ailleurs. Et puis du coup ils sont en public, donc c'est comme un attentat à la pudeur, aux bonnes mœurs. Et là les flics arrivent, la police arrive et les met en prison. Et là ils les remercient, ils leur sautent au cou, merci, vous nous avez permis de respecter notre éthique.
Bon
notre...
bah vous venez de spolier la chute de ce sketch. Là, c'est pas grave, c'est le plus court du film. Allez-y quand même. Mais oui, effectivement, c'est un film qui est inspiré des comédies italiennes où en quelques minutes on décrit des situations, des couples avec en général voilà un fort potentiel de chute humoristique.
Alors, en revanche, vous m'avez reproché de spoiler, donc je vais pas le faire deux fois. Mais moi, je vous reproche de pas avoir répondu vraiment à ma question quand je vous dis lequel parle le plus de vous. Parmi tous ces fantasmes.
Alors je pense que dans la création, on est toujours présent. Même si moi j'ai plutôt écrit des choses assez, je veux dire, pudiques, ou voilà, j'ai écrit la délicatesse, donc j'ai rarement été dans la confrontation avec la sexualité. Je pense que le fantasme dont je suis le plus proche dans le film est la thanatophilie.
Ah oui ?
Celui que vécu par Monica Bellucci et Carole Bouquet, qui est l'excitation de la mort. Je me suis rendu compte que dans nombre de mes livres, ou dans certains de mes films, il y a des scènes de séduction dans les cimetières. Il y a en tout cas l'exaltation de la vie au rivage de l'éphémère. Et donc ça c'est assez classique. Après dans le film c'est vrai qu'elles vont très très loin et
oui, il faut préciser que là il s'agit du couple joué par Carole Bouquet et Monica Bellucci. Donc c'est un incroyable couple de cinéma et de lesbiennes.
Oui, d'ailleurs Carole Bouquet, le matin du tournage, envoyait plein de textos à ses amis en disant « Je vais vivre ton rêve, je vais passer la journée au lit avec Monica Bellucci ».
Ouais. Mais alors, il n'y a pas de fantasme non sexuel?
Pour moi, enfin, ça me paraît évident que qu'il y a évidemment des fantasmes non sexuels. Si vous voulez, pour préparer ce film avec mon frère, on a fait la liste de toutes les paraphilies, de tous les fantasmes possibles.
Parce qu'en fait, et c'est vraiment bien, ce délirant, sont des fantasmes répertoriés en presque médicalement.
Oui, complètement. Et tout ce qu'on raconte dans le film est réel, existe. Tous ces fantasmes sont bien réels. De toute façon, enfin, tous les fantasmes existent. Ceux qui vous écoutent, ça se trouve parmi les auditeurs, il y a des pépinophilistes. Donc voilà, donc tout existe.
Tout
après,
existe.
Donc il y a des fantasmes non sexuels. Par exemple, la fornifilie, être excité par l'idée que son conjoint se transforme en meuble.
ça existe
vraiment. Il y a des réunions de
en commode, de
voilà, exactement, ou en lampe. On met un abat-jour sur l'être aimé, et puis on tire un petit fil pour allumer la lumière. Ça existe totalement, ou l'idée que son conjoint se transforme en table. Donc ça, c'est pas, on va pas forcément jusqu'à la pénétration ou jusqu'à l'aboutissement d'une relation sexuelle. On peut être en, voilà, il y a plein de fantasmes, celui d'être excité sexuellement par les rayons de soleil, par exemple, ou par les clowns. Enfin bon, la liste est assez ouais, dingue. D'ailleurs, on donne un petit livret comme ça dans certaines séances, mais c'est très très drôle.
Alors, il y a fantasme avec un F, c'est le cas de votre titre. Il y a aussi fantasme avec PH. Ça veut dire quoi?
Ben, je ne sais pas, vous allez me l'apprendre, effectivement.
Non,
il y a deux types de...
En fait, je ne sais pas non plus vraiment. Disons qu'il y a un débat, notamment chez les psychanalystes, puisqu'il y aurait un certain type de fantasme qui ne serait qu'inconscient, dont nous n'aurions pas conscience, mais qui nous travaillerait comme un scénario inconscient et qui nous procurerait une jouissance elle-même inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne saurait même pas par quoi on est excité. Mais par contre, on pourrait le découvrir en analyse à l'occasion du fait de parler d'un rêve ou tout simplement de parler en association libre sur le divan. Et ça, c'est vrai que ça n'apparaît pas dans le film. C'est des fantasmes conscients.
Alors, ça apparaît dans le film avec la dacryphilie, c'est-à-dire que subitement, à un moment de son couple, Céline Salette, en voyant son conjoint pleurer, en l'occurrence Nicolas Bedos, alors qu'elle prenait pas de plaisir dans la relation sexuelle, découvre subitement que ça l'excite de voir les larmes. Alors effectivement, là, ça fait appel sûrement à un désir peut-être de consolation ou maternant, mais je trouve ça très excitant qu'on puisse à un moment donné être soumis à un fantasme qui était probablement inconscient jusqu'ici.
Alors je vais cette fois ne pas spoiler ce sketch-là, mais que j'ai trouvé très 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 bien, très drôle. Il y a aussi l'idée que le fantasme m'en apprend sur moi au fond, que si je vais l'explorer, accepter en fait, si parfois il est un peu choquant, mais l'accepter, peut-être ça va me dire des choses de moi que j'ignore en fait.
Ça me paraît absolument évident. Dites-moi votre fantasme, je vous dirai qui vous êtes.
Alors allons-y,
le fantasme.
Allons-y.
Alors, quel est votre fantasme, Monsieur Pépin ?
C'est moi qui pose des questions.
Non, mais c'est évident que le fantasme, à partir du moment où on est dans le pur produit du désir, souvent inconscient, refoulé, extrêmement intime, il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité de la personne. Après, ça ne veut pas dire que le patient ou celui qui fantasme est en capacité de comprendre pourquoi il a ce fantasme-là. De toute façon, c'est un terrain psychanalytique à l'état pur, ça c'est certain.
Alors votre film est un film léger, c'est un film à sketch, il est très drôle, mais quand même le tragique affleure assez souvent. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une thèse qui est que si on y va, c'est un peu dangereux quand même. C'est un peu dangereux de les réaliser pour soi et pour les autres. En tout cas, dans chacun des sketchs, il y a quand même des effets pervers, des effets seconds.
Oui, complètement. Et puis ça peut être évidemment tragique. Parce que parfois, on a des pulsions qui ne sont pas compatibles avec la société ou évidemment avec le désir de son ou de sa partenaire. Puisque dans l'idée d'assouvir un fantasme à deux, il y a aussi l'idée de l'épanouissement, du bonheur, et ça peut être évidemment un frein. Donc on raconte ça.
Ouais.
Alors c'est évidemment par moment, on est dans la comédie, mais quand on évoque le fantasme de la saurophilie, être soumis d'une manière totalement étrange au désir de la sœur de sa compagne ou de son compagnon, quoi qu'il arrive, c'est évidemment une condamnation un peu douloureuse.
Et
donc on peut tout à fait être en souffrance. Il faut trouver, de toute façon, la vie entière se résume à l'idée d'essayer de trouver un équilibre entre nos désirs et nos capacités à les assouvir. Donc la frontière du fantasme, elle est aussi là.
Et vous y arrivez, vous ? Vous y arrivez bien à trouver cet équilibre ? Vous en rapprochez ou pas ?
Moi, je suis pas quelqu'un qui, je sais pas, j'ai plutôt tendance, d'une manière un peu, peut-être un peu triste par moment, mais en même temps, c'est peut-être une clé aussi d'une forme d'épanouissement, je ne sais pas, à être plutôt dans la satisfaction de ce que j'ai, ouais, du quotidien. Je suis pas dans le fantasme permanent de l'extériorisation, et je crois que sexuellement aussi, sans trop dévoiler de choses, j'ai le sentiment d'être plutôt en tentative permanente, d'être dans le bonheur de ce que j'ai.
C'est ça, c'est une définition de la sagesse, hein. Apprendre à aimer ce qu'on a et non pas fantasmer sur ce qu'on n'a pas. Et c'est aussi une définition peut-être de la joie, si on la distingue de cette jouissance attachée au fantasme. La joie, ce serait toujours quelque chose qui est corrélé, quoi, connecté au réel. Et c'est vrai que souvent, on se rend pas compte de la joie qu'on a à portée de main, même dans une vie de couple. Le plus souvent, on est dans une comparaison avec des idéaux, avec des imaginaires, et finalement, on en vient à dévaloriser la réalité qui est là, alors qu'on pourrait faire le chemin inverse, partir de ce réel, et se demander dans ce réel, finalement, ce qu'il y a à aimer.
Oui,
c'est un
vrai
peu ce que vous dites.
Oui, mais je pense que moi j'ai eu une grande chance, c'est que à l'âge de 16 ans, j'étais très gravement malade, j'étais opéré du cœur, j'ai passé des mois à l'hôpital, j'ai eu une expérience de mort, et je pense que comme tous les gens qui ont été gravement malades, on en ressort avec une connexion avec les plaisirs simples, avec aussi une forme de sensibilité ou de rapport à la sensualité qui est plus facilement accessible d'une certaine manière, et je pense que le désir, en tout cas le plaisir du quotidien se développe grandement avec ce genre d'expérience.
Oui, d'ailleurs, ce que vous dites, c'est un résumé de la sagesse antique, qu'elle soit épicurienne ou stoïcienne. Plus tu fréquentes la mort, l'idée de la mort, plus tu la fais venir à ta conscience, plus tu sais jouir de ce qui est et cueillir l'instant.
Parce que je vous coupe juste, mais Charlotte Salomon, sur laquelle, la peintre allemande sur laquelle j'ai écrit, a dit une phrase qui me semble absolument bouleversante. Elle dit « Il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement ». Donc ça fait vraiment écho à ce que,
ah, c'est beau,
ce que
c'est
vous
très
dites.
Beau. Ouais. Eh bien, on va faire résonner cette belle affirmation de Charlotte en écoutant ceci.
L'amour à plusieurs. Sans chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer un peu à la déraison, l'amour. Canapé, j'étais près de toi, oui, mais dans mes bras, ce n'était pas toi. Quand tu t'es penché pour me regarder, juste à cet instant, je t'ai désiré, l'amour a plusieurs. Est-ce bon pour le cœur? Puis tu t'es glissé tout contre mon corps, et je sens ta peau qui me brûle encore. Ainsi que nous faisions là n'importe quoi, l'amour à plusieurs. C'est pas bon pour le cœur. Et puis un homme m'avait caressé. Et puis un homme, j'ai su vous aimer.
C'était Anne Sorel, L'amour à plusieurs.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec David Fonkinos, dont le film, réalisé et écrit avec son frère Stéphane, sort aujourd'hui au cinéma, Les Fantasmes. Et nous venons d'entendre cette troublante chanson d'Anne Sorel, dans laquelle on voit bien qu'un fantasme est peut-être un peu excitant, un peu dérangeant et parfois un peu triste aussi. Est-ce que finalement, parce que je vous ai même pas posé la question qui donne le là de l'émission, vous pensez qu'il faut plutôt les réaliser ou pas, Les Fantasmes ?
Ah, ça, c'est la grande question. Bon, en écoutant la chanson, on se rend compte que pas forcément. Mais là aussi, il y a un rapport entre l'épanouissement physique, sexuel, et puis l'arrivée des sentiments, qui complique aussi les choses. J'ai le sentiment que jusqu'à peu de temps, en fait, il était de bon ton de dire qu'un fantasme ne devait pas se réaliser, justement, pour rester dans l'univers du possible, et puis pour finalement continuer à exister au sein d'un désir inassouvi qui peut être très, très, très plaisant à vivre. Et puis, on est dans l'ère quand même maintenant du combat contre la frustration, de l'idée de vivre tout, coûte que coûte. Et donc, j'ai le sentiment que chacun, de plus en plus, cherche à assouvir son fantasme. Et je suis pas certain, quand on voit notamment notre film, que l'idée d'aller accomplir ses fantasmes soit une bonne chose. J'aime bien l'idée, moi, qu'on puisse avoir des terrains comme ça non conquis.
Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a aussi un aller-retour. On peut, par exemple, réaliser un fantasme uniquement partiellement. Et du coup, ça garde de l'excitation. Par exemple, il y a des parents qui ont un fantasme, en fait, de dévoration de leur enfant par amour. Je vais te manger, je vais te croquer. Et au fond, on peut le faire un petit peu. C'est-à-dire qu'on mord un petit peu, on croque un peu. Et c'est le fait que ce soit partiel qui peut-être laisse une part d'imaginaire et une part de réel. Mais je voudrais quand même qu'on en vienne plus à vous, à votre chemin d'artiste. Donc vous êtes romancier, mais aussi scénariste, mais aussi réalisateur, mais aussi dramaturge. Moi, je suis assez bluffé dans votre parcours par les rebonds de créativité, l'audace de certaines bifurcations. C'est assez rare, hein, d'ailleurs, de changer comme ça, de registre, de changer de genre. Comment vous faites, peut-être tout simplement pour oser, par exemple dans le cas de, prenons un exemple, dans le cas de Charlotte, donc c'était presque de la poésie, c'était une histoire qui se passait à Auschwitz, et c'était très différent de ce que vous aviez fait auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors je sais pas si c'est oser, c'est simplement essayer d'être au plus juste avec soi-même, avec son intuition, son inspiration. J'ai jamais voulu refaire ce que j'avais déjà fait. Ça, c'est vrai que c'est un moteur dans ma création, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail. J'ai toujours besoin d'aller ailleurs. Et c'est vrai que j'ai un grand moment de bascule dans ma vie, c'est le succès de La Délicatesse, qui est totalement improbable, puisque c'est mon 8e roman. Je suis habitué plutôt à des publications confidentielles. Et c'est vrai que le succès de ce livre aurait pu me pousser dans l'idée de me dire, bon, maintenant,
je vais faire... Un succès dont il faut rappeler qu'il est énorme, monumental. Je crois que c'est plus d'un million
millions de livres vendus.
Ouais, le livre était numéro un des ventes pendant un an et demi, et c'est vrai qu'on m'a poussé, enfin, certaines personnes m'avaient dit, bon, ben maintenant, voilà, tu vas faire la délicatesse 2, la délicatesse 3, toujours ce même type de livre, et c'est vrai que Charlotte, ça a été aussi incroyable, parce que c'est un livre que je portais pendant des années, animé par la fascination pour cette peintre, Charlotte Salomon, un peu désespérée de voir à quel point elle était oubliée comme artiste, et c'est vrai que ce livre-là, qui raconte le parcours lumineux de cette femme qui, à un moment donné, alors qu'elle est au plus profond du désespoir, va puiser en elle une œuvre extraordinaire d'intelligence et de culture. Ce portrait-là, c'est évidemment un livre beaucoup plus grave, écrit d'une manière particulière, comme de la poésie d'une certaine manière. Et c'est vrai que je pensais que ce livre-là allait désarçonner. Ça n'avait pas d'importance pour moi. Le plus important, je me disais, même si quelques personnes vont lire ce livre, ils vont découvrir Charlotte Salomon. Et c'est vrai que le succès de ce livre-là, en 2014, et notamment avec le Goncourt des Lycéens...
Encore un très gros succès. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, je m'étais pas posé auparavant. Vous devez connaître, bien sûr, Eti Hilsum, cet auteur, une vie hollandaise qui a écrit Une vie bouleversée. Il y a quelques points communs avec Charlotte Salomon, puisque Eti Hilsum, elle aussi, dans un camp, qui est d'abord un camp de tri, puis ensuite elle meurt à Auschwitz, et puis avant ça, elle tient son journal, un journal éblouissant, avec beaucoup de rapports à la beauté, beaucoup de confiance en l'homme et en la vie, malgré tout. Et donc, ça, il pourrait y avoir des liens.
Vous avez complètement raison, c'est assez... On a souvent fait le parallèle, c'est vrai. Elles ne se sont pas croisées, mais c'est vrai que Charlotte Salomon était... j'ai été assez désespéré de voir à quel point elle était oubliée. Parce que, pour moi, j'ai été heureux aussi d'avoir le Goncourt des Lycéens pour ce livre-là, parce que au-delà de sa puissance créatrice, de son intelligence lumineuse et de sa culture, c'est vrai que c'est quelqu'un qui représente pour moi une force de courage et de combat tout simplement extraordinaire, puisque quand elle quitte l'Allemagne, elle est en exil dans le sud de la France, dans la région de Nice, à Villefranche-sur-Mer, ayant tout quitté, n'ayant plus de relation avec sa famille, l'homme qu'elle aime, elle va puiser au plus profond d'elle-même la beauté et l'intelligence pour créer une œuvre qui va d'une certaine manière la sauver. Et puis, parce que c'est vrai que, bon, je pourrais en parler pendant des heures, c'est certain, de Charlotte Salomon, mais sa vie est marquée par tellement de tragédies. Parfois, quand on lit le livre, les gens me demandent si j'ai inventé des choses. Non, tout est vrai. Et c'est vrai que son destin tragique va la rattraper, puisqu'elle va être dénoncée et déportée.
Et l'idée de l'écrire en rime ?
Alors, c'est vrai que mon livre raconte toute l'histoire de Charlotte Salomon, mais aussi mon rapport à elle. C'est mon seul livre, finalement, où je suis réellement présent, puisque c'est une biographie intime. Je raconte aussi, dans ce livre, pourquoi elle me touche, comment j'ai découvert son œuvre, pourquoi je l'aime, pourquoi je l'admire. Et c'est vrai que ce livre raconte aussi le laboratoire d'écriture de ce roman. Et j'explique que pendant des années, j'ai abandonné parce que j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à mettre des mots sur mon admiration. L'histoire était trop douloureuse, trop suffocante. J'y arrivais pas. Littérairement, j'avais pas les armes pour écrire ce livre. Et à un moment donné, en allant à la ligne, j'ai commencé à mettre de la respiration dans ce récit. J'ai commencé à respirer et à être capable de l'écrire comme ça. Mais au début, quand le livre sort, même chez mon éditeur ou d'autres personnes, ou les premiers retours, tout le monde me dit que c'est absolument illisible comme ça. Ça n'avait pas d'importance pour moi. C'était la seule façon avec laquelle j'avais réussi à mettre des mots sur ma fascination pour cette peintre.
Comme si vous aviez trouvé la forme, la seule forme peut-être possible pour aborder ce fond-là, quoi.
Mais la forme, c'est ce qu'il y a de plus important en littérature. Évidemment, moi, je prends goût à inventer des histoires, à avoir un début, un milieu, une fin. Je suis heureux quand les lecteurs me disent que voilà, ils prennent du plaisir à suivre cette histoire. Mais le plus important, l'obsession pour un écrivain, ça reste la langue, ça reste la façon d'agencer les histoires, ça reste le regard particulier sur des émotions ou des sensations.
En vous écoutant, je pense à quelque chose comme ça qui me vient, c'est le rapport à Milan Kundera, puisque j'avais eu l'impression qu'un livre comme La Délicatesse avait quelque chose de proche, et il se trouve que, je crois savoir que vous l'admirez aussi, cet écrivain, il se trouve qu'il y a un livre qui est sorti récemment par une journaliste du Monde qui s'appelle À la recherche de Milan Kundera, et en fait on découvre qu'il est là, il n'écrit plus, il ne s'exprime plus publiquement, il vit je crois, à Paris, ou peut-être dans
le 7e, oui. Ouais. Oh, il écrit, il a publié il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai qu'en 1984, je crois, il a renoncé à toute interview et à s'extraire du monde médiatique, finalement, et à simplement laisser ses livres comme moyen d'expression.
Et ça vous inspire quoi, cette figure ?
Parce que vous avez immense, majeur. Là, vous faites référence au livre d'Ariane Chemin. C'est vrai que c'est un écrivain qui m'a incroyablement fasciné, inspiré. J'ai eu la chance magique dans ma vie de le rencontrer. Et à l'époque de la délicatesse, il m'avait envoyé un mot. Ça reste un des moments incroyables de ma boîte aux lettres.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Non, mais un dessin très 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 sympathique. Mais il faut imaginer, faut savoir que mon premier roman, il y a 20 ans, en version L'Idiotie de l'influence de Polonais, c'était un roman un peu burlesque, un peu. Enfin, je vous le déconseille vraiment. Ça partait dans tous les sens.
Oui, mais j'ai déjà lu.
Milan Kundera était un des personnages de ce livre-là. Donc à l'époque,
donc, il avait été publié chez.
Il avait été publié ce roman. Il avait été refusé partout. Sauf par Gallimard, donc c'était totalement improbable. Il était tombé sous le regard de Jean-Marie Lacraftine, et donc j'avais publié mon premier roman, et donc Milan Kundera, qui était au comité de lecture, en tout cas qui était écrivain Gallimard, avait eu vent de ce livre où un jeune auteur faisait de lui une sorte de héros tchèque un peu improbable.
Et finalement, donc vous parlez d'admiration pour Charlotte Salomon, là on voit de l'admiration pour Kundera. L'admiration, c'est une valeur aujourd'hui un peu menacée. Beaucoup de gens pensent que si on admire, on se sent petit, c'est un peu régressif, un peu infantilisé. On sent dans votre cas que c'est le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres écrivains contemporains que vous admirez et qui vous inspirent aussi par leur capacité à réinventer la langue ou même à changer de genre ?
D'abord, je trouverais ça totalement grotesque et risible de ne pas être animé par l'admiration des autres, pas forcément des artistes, hein, évidemment. Là, on sort d'une année terrible où on applaudissait le personnel hospitalier. Enfin, moi, je suis animé en permanence par déjà le respect de chaque parcours, de chaque talent. C'est vrai, vous avez raison. Moi, je suis souvent nourri à l'admiration, et dans mes livres ou dans mes films, il y a souvent des références sur les peintres que j'aime, les films que j'aime, les auteurs que j'aime. Donc, oui, je pourrais citer beaucoup de gens, beaucoup de contemporains que j'aime. C'est vrai que quand on est écrivain, on a l'habitude de se croiser les uns les autres. J'ai beaucoup de collègues de travail que j'admire.
Est-ce que vous, qu'est-ce que vous trouvez en réalisant des films que vous ne trouvez pas en écrivant des livres ?
Les autres, ça c'est certain, c'est extraordinaire. C'est une chance de pouvoir avoir cette vie un peu bipolaire. C'est-à-dire que quand je suis seul en train d'écrire un livre dans mon lit, au bout d'un moment, le travail collectif me manque. J'écris au lit ou dans les trains. Donc il me faudrait des trains couchettes, ça serait idéal. Mais et quand je suis sur un plateau, entouré de 50 personnes, vient un moment où mon lit me manque, ça c'est certain. Donc cet aller-retour permanent, c'est assez plaisant. C'est assez plaisant de pouvoir avoir ces deux énergies qui sont complémentaires et qui se nourrissent l'une de l'autre. Le travail avec les autres, enfin je veux dire, quand on fait un film, les acteurs, les musiciens, chaque technicien, on nourrisse finalement la vision qu'on peut avoir d'une idée, d'une narration, et ça c'est incroyablement excitant. Moi, tous les métiers du cinéma, que ce soit l'accessoiriste ou la régie, enfin tout me passionne dans le cinéma.
En tout cas, ça nous ramène à la question un peu centrale de notre échange, qui est celle, je dirais maintenant, non plus du fantasme, mais du désir. C'est-à-dire, on peut se demander, puisque vous changez de genre, que même au sein du genre roman, vous réinventez les choses. Quel est, au fond, votre désir ? C'est-à-dire l'espèce de quête ou l'axe, la chose que vous poursuivez, au fond.
Je trouve que c'est intéressant, parce que souvent, on fait des allers-retours dans nos désirs. Quand je m'oriente vers la comédie, j'ai très envie de retourner vers la gravité. On pourrait dire, d'une manière générale, quand on a le succès public, on a envie d'avoir les critiques, et inversement, c'est souvent classique, c'est cette énergie-là. Moi, je sais que je me construis toujours, d'une certaine manière, en opposition à ce que j'ai fait précédemment. Et donc, mon moteur, il est plutôt dans cette énergie-là. J'ai besoin de voyager de moi-même, j'ai besoin de changer de tonalité.
De vous surprendre
sans
vous-même
cesse. De me surprendre, oui. En tout cas, d'essayer de ne jamais rien considérer comme ni acquis, quitte à parfois être plus approximatif. Je ne suis pas sûr d'avoir tout réussi ou tout comme j'espérais. On a tous envie d'être la meilleure version de nous-mêmes. On a tous envie d'être toucher à ce qui peut nous paraître le plus juste, mais
en tout cas vous faites pas partie de ceux qu'on pourrait d'ailleurs valoriser par ailleurs qui au fond refont tout le temps le même livre. Ils existent, hein. C'est d'ailleurs pas non plus condamnable. C'est
non, parce qu'il y a plein de génies, ouais. De Modiano, Albert Cohen, hein, on parlait de Kundera, ouais. Qui ont un univers fixe romanesque, et c'est pas du tout. Je crois que c'est vraiment le reflet de sa personnalité. Peut-être que moi, je suis traversé par le multiple, par l'envie de m'échapper de moi-même le plus souvent possible. L'envie, surtout, de ne jamais être dans la facilité. Ça m'est déjà arrivé d'écrire deux livres qui se ressemblaient un petit peu, et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez inconfortable, même déplaisant un peu.
On ne change pas une recette qui marche, c'est pas pour vous. Et d'ailleurs, on va écouter un deuxième morceau de musique pour méditer à tout ça. C'était Céleste, Tonight, Tonight.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous retrouvons David Fonkinos pour cette réflexion sur les fantasmes. Et puis maintenant, le désir, on en était là avant la pause musicale. Au fond, qu'est-ce qui vous travaille de manière dominante? Quel est cet axe autour duquel vous tournez en enchaînant livres, pièces de théâtre? et film. Peut-être pour y répondre, je voudrais embrayer sur quelque chose que vous avez suggéré tout à l'heure, c'est la question du regard des autres sur votre travail. Il me semble qu'il vous arrive quelque chose d'assez intéressant, qui dit beaucoup de l'esprit français. Vous allez me dire si je me trompe. Hein. Vous étiez, quand vous aviez moins de succès, un écrivain reconnu d'un petit milieu de critique, notamment vous aviez eu le prix Nimier. Donc le prix Nimier récompense en général des livres bien écrits, un peu précieux, presque une littérature de droite, on pourrait dire. Et ces mêmes critiques, quand vous avez commencé à avoir du succès, enfin plus de succès, et même beaucoup, beaucoup plus de succès, au point de vendre comme les plus gros vendeurs en France, voire plus d'ailleurs, eh bien, il m'a semblé qu'ils commençaient à vous critiquer. Comment vous vivez ça, et qu'est-ce que ça vous inspire sur ce que c'est que la France ?
Alors, je suis pas obsédé par le regard hein, sur ce que je peux faire, mais c'est vrai que ça c'était une sorte de cas d'école un peu particulier, puisque pendant une dizaine d'années je publiais des romans chez Gallimard avec une presse excellente, plein de prix littéraires, et c'est vrai que le succès de La Délicatesse a à un moment donné un peu changé le regard, mais tout va très bien, je veux dire, mais c'est vrai que c'était un cas d'école parce que La Délicatesse, quand on le lit sort en 2009, donc à la rentrée littéraire chez Gallimard, c'est le seul livre de la rentrée à être sur toutes les listes des prix littéraires, Goncourt, Renaudot, Féminin, Interallié, Médicis, donc considéré comme un objet plutôt littéraire, si j'ose dire. Et puis progressivement, en ayant passé le million d'exemplaires, j'ai vu même les mêmes journaux, les mêmes journalistes parfois considérer le livre d'une manière négative à travers le prisme de ce succès incroyablement grand public. Mais c'est vrai que j'ai fait des allers-retours en permanence entre une image d'auteur de best-seller, et puis en même temps, après, j'ai publié Charlotte, qui était en finale du Goncourt, qui a eu le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens. Donc, je crois qu'on peut... Enfin, le plus important, puisque vous me parlez du regard, c'est l'honnêteté intellectuelle. Puisqu'on est sur France Inter, par exemple, un journaliste comme Augustin Trapenard, il n'avait pas aimé un de mes romans qui s'appelle Je vais mieux. Il avait été assez virulent avec ce roman. Et puis le livre d'après, c'est Charlotte. Il aime Charlotte, il le soutient, il m'invite à Boomerang. C'est la seule chose qui nous intéresse quand on crée. Nous, on travaille, on propose des choses. Moi, j'ai jamais aucun problème avec l'idée qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail. Ce qui est insupportable, c'est d'être parfois jugé à travers le prisme de qui l'on est ou son succès. Et bien donc, sûr. C'est ça qui peut être tout simplement un peu gênant parfois, mais j'ai pas le sentiment, moi, d'être victime de ça. Et c'est pareil pour notre film qui sort aujourd'hui. On a plutôt un très bon accueil, certains moins, et c'est tout à fait normal.
On a parlé beaucoup de vos succès. Est-ce qu'il y a eu des échecs dans votre parcours qui vous ont vraiment beaucoup nourri ?
Je sais pas si des échecs m'ont nourri, parce que c'est assez étrange, mais j'ai jamais, alors c'est toujours un peu bizarre, oui, de dire ça, mais j'ai jamais été animé par une grande ambition. J'espère qu'on met pas en doute ce genre de phrase, parce que parfois on peut douter de quelqu'un qui va exprimer ça, mais quand j'ai eu du succès, ça a été quelque chose de totalement improbable pour moi, de pas attendu, de pas même espérer, parce que quand on écrit, on est habitué à avoir assez peu de lecteurs. Moi, c'était ma passion, l'écriture. J'étais publié, j'étais très heureux comme ça. Je faisais plein de petits boulots à côté. J'avais pas une excitation du succès, même si le succès m'a apporté une immense liberté, y compris financière, parce que c'était compliqué. J'ai pu après être libre d'écrire. Même Charlotte, j'ai pu écrire parce que j'avais cette liberté-là. Mais je n'étais pas malheureux de toutes ces années. Je me souviens, j'avais fait une rencontre pour un de mes romans à la FNAC, et il n'y avait qu'une seule personne dans la salle. Donc là, en termes de loose, on avait atteint une sorte d'excitation maximum. Et c'est une femme qui en plus vient me voir et me dit j'ai oublié mes clés, donc je traîne dans la FNAC en attendant que mon mari rentre à la maison. Donc j'avais vécu quand même, mais je m'en souviens comme d'un moment assez sympathique, je veux pas dire joyeux, mais je sais pas, tout me j'étais satisfait en fait de chaque chose qui pouvait m'arriver.
Façon,
et donc j'ai
aimez.
Je vois par rapport à d'autres personnes, je crois pas avoir été animé par l'amertume ou la frustration. Ouais. Peut-être que ça viendra progressivement.
Non, j'espère pas. On a l'impression que vous savez saisir ce qui est et aussi vous réjouir d'avoir réussi au fond à choisir une activité qui vous remplit de joie au fond.
Oui, et puis d'abord il y a des choses plus compliquées dans la vie, plus graves, et donc j'essaie plutôt d'être j'ai plutôt une énergie qui me porte, évidemment, à avoir plutôt le côté positif des choses. D'ailleurs, on me l'a parfois un peu reproché. On m'a parfois reproché l'optimisme dans certains de mes livres. Je me souviens de La Délicatesse, par exemple. J'étais assez surpris de voir le regard cynique qu'on pouvait avoir sur le personnage suédois dépressif qui était joué au cinéma par François Damiens, parce qu'il était traversé par la délicatesse et par la bonté. Je trouve ça toujours un peu fou de se dire que quelqu'un de gentil, en tout cas en France, c'est considéré comme quelqu'un de con. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est jamais positif.
Alors vous connaissez le proverbe normand, gentillesse n'a qu'un œil.
Ah ben voilà.
Sous-entendu, il est un peu con, il est gentil, il est un peu con, quoi. Il voit pas les retournées, quoi.
Mais je trouve ça totalement... absurde et totalement comment
mais
dire,
par ailleurs,
improbable
votre, dans la délicatesse
rendre si négative la gentillesse
c'est pas d'ailleurs si optimiste, c'est pas d'ailleurs si positif la délicatesse, c'est plutôt il y a du sourire, quoi, il y a de la délicatesse justement.
Ben ça me fait plutôt plaisir d'entendre ça, parce que parfois on est très vite avec quelques idées superficielles, pas caricaturées, mais c'est vrai que et puis j'ai eu la chance avec mon frère d'avoir l'immense Audrey Tautou dans le film, oui. Donc j'avais vu parfois des gens qui assimilaient à l'univers d'Amélie Poulain, que moi j'adore, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas si merveilleux dans la délicatesse.
Non, mais en fait, dans la délicatesse, il y a de l'espoir, surtout. Et s'il y a de l'espoir, c'est parce qu'il y a aussi des choses dures. Donc ben on n'est pas dans la psychologie positive non plus.
Mais hein, complètement, mais c'est un livre sur la Renaissance. Tout à l'heure, je citais Charlotte Salomon, qui dit qu'il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Je me suis rendu compte que ma fascination pour l'œuvre de Charlotte Salomon venait aussi du fait que ce qu'elle racontait, ce qu'elle disait, ce qu'elle peignait me touchait particulièrement. Et finalement, quand on est en fascination face à une œuvre, c'est qu'on la reconnaît. On dit parfois qu'un coup de foudre, c'est le fait de reconnaître quelque chose qui existait déjà en nous. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, tous mes livres, aussi différents soient-ils, puisque tout à l'heure on évoquait le fait que je change régulièrement d'univers, ont tous pour point commun la Renaissance, l'idée de la seconde vie, l'idée de la résurrection. Et évidemment, c'est extrêmement personnel, puisque je me suis rendu compte plus tard que je traduisais, en tout cas je retranscrivais dans mes livres ma propre expérience, celle d'avoir été gravement malade et d'être revenu à la vie.
Vous aviez donc 16 ans, je crois que vous avez beaucoup lu pendant cette période à l'hôpital, c'est ça? Et puis aussi jouer de la guitare?
Oui, moi j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel, et on était en 91, donc pas d'internet, pas d'ouverture sur le monde.
Juste Kurt Cobain qui chante à la radio?
Oui.
Vous pensez que le beau est toujours bizarre?
Oui, c'est la formule un peu très connue du beau et du bizarre, mais j'ai le sentiment que j'ai le sentiment qu'on évoque ça quand on se dit que l'œil de l'autre est forcément une bizarrerie, puisque on est dans la beauté, on est dans le pur produit de la subjectivité. Donc tout ce qui n'est pas nous d'une certaine manière est bizarre. Sans connoter la bizarrerie, mais quand on prend la source de la bizarrerie, c'est étranger à notre propre sensibilité.
C'est aussi le cas de certains personnages dans vos livres qui sont bizarres, hein, et peut-être c'est parce qu'ils sont juste différents et que vous vous rapprochez de cette altérité. Vous avez parlé du coup de foudre et de cette fréquentation comme ça d'un quelque chose d'inconnu qui nous semble soudain familier. C'est aussi une définition des grandes rencontres au fond. J'ai l'impression que c'est un thème qui court aussi dans tout votre travail, c'est la rencontre de ce qui n'est pas soi. Vous croyez que c'est la meilleure façon de devenir soi, de rencontrer ce qui n'est pas soi?
Je trouve ça assez touchant de dire ça comme ça, parce que j'ai écrit un livre sur John Lennon. Et c'est vrai que parmi ce qui me fascinait dans la vie de John Lennon, dans sa fragilité, dans ses blessures, dans l'idée qu'on n'arrive jamais à compenser les souffrances et les blessures de l'enfance... il y a la rencontre absolue avec Yoko Ono. Et il a souvent dit qu'il avait rêvé Yoko Ono, qu'il avait dessiné dans sa tête Yoko Ono avant qu'elle entre dans sa vie. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que l'amour suprême, cet amour, moi, entre John et Yoko, qui m'a toujours fasciné comme étant finalement la rencontre qui anéantit le reste du monde. C'est-à-dire que John Lennon peut avoir toutes les femmes, à toutes les femmes, et à partir du moment où Yoko Ono est là, c'est l'éradication absolue du désir par ailleurs. Et donc, il y a cette obsession qui va au point de se fusionner, puisqu'il va lui-même s'appeler John Ono Lennon, et puis il va dire « elle et moi, EST ». Donc ils vont former la même personne.
On se demande parfois quel ado vous étiez. Je veux dire, avant notamment la grave maladie que vous avez évoquée.
J'étais assez très introverti, très mal dans ma peau. De toute façon, tous ceux qui ont un rapport risible sont passés par là, je pense. Très très rêveur, mais pas animé par grand-chose. Finalement, assez.
Mais vous diriez
assez
que
déprimant, quoi.
Vous diriez que cette maladie finalement a été plutôt une chance, avec le recul.
Une chance absolue. Ouais. Une chance absolue. Certains mystiques m'ont parfois dit que je me suis reconnecté avec mon destin, ou en tout cas que je suis allé vers ce qui m'attendait. Alors, sans être trop barré hein, dans ces choses-là, mais c'est vrai que la proximité de la mort, puisque j'ai une expérience de mort, je suis revenu à la vie. J'ai passé des mois à l'hôpital dans l'incertitude, dans une forme de souffrance qui m'a propulsé vraiment la tête la première dans le monde sensible. Et donc, c'est très très particulier de vivre la sensation de devenir un autre. Et c'est-à-dire un adolescent qui détestait lire. Et qui va devenir boulimique de lecture, qui va commencer à souligner des phrases dans les livres, qui va aimer la peinture, sensible à la musique classique, alors que j'adorais France Gall avant, mais j'adore toujours France Gall, évidemment.
D'ailleurs, ce que vous disiez
mais
tout
c'est
à l'heure...
c'est un nouveau monde qui est très, très étrange.
Et si j'ai envie de vous poser une dernière question, que je pose souvent à mes invités, qui est un peu bizarre, mais je vous la pose quand même.
Mais toutes vos questions étaient bizarres. Donc...
Vous êtes, David Fonikinos, l'enfant de quoi ?
J'aurais aimé dire autre chose que ce que je viens de dire pour pouvoir rendre l'entretien plus riche, mais pour moi, c'est vraiment l'écho de ce que je viens de dire. Je suis vraiment l'enfant de... Si je résumais, je dirais que je suis l'enfant des livres, puisque je sais que quand j'ai passé des longs mois à l'hôpital à l'âge de 16 ans, les livres m'ont consolé, les livres m'ont guidé, les livres m'ont fait voyager, les livres m'ont sorti de mon univers, les livres m'ont appris à vivre... J'ai été en boulimie de lecture à ce moment-là. Les livres qui ont marqué, ça va aussi bien de La Promesse de l'Aube à L'Étranger, Lolita, Henri Miller, la littérature russe qui a été très très importante pour moi. Je suis même parti après en Russie voir la maison de Dostoïevski. La boulimie à ce moment-là des livres, le fait de pouvoir voyager à travers les mots, de me comprendre, de comprendre les autres, d'être sensible à la beauté d'une phrase. Je me souviens avoir souligné les trois quarts de Lolita de Nabokov à l'âge de 17 ans. Et c'est vrai que je suis l'enfant de ça. Et en tout cas, je n'ai cessé de vouloir m'approcher de cette émotion-là par la suite.
Merci beaucoup, David Fonikinos, de nous avoir rejoints ce matin sous le soleil de Platon. Pour vous remercier, je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre. Alors, j'aurais envie de dire une philosophie curieuse, une philosophie de la promenade, une philosophie aussi de la délicatesse, une philosophie aussi de la quête. On ne peut pas comme ça passer d'un genre à l'autre sans rechercher quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Et puis aussi, peut-être, quelque chose de rieur, ce sourire que ne peuvent arborer que ceux qui ont vu qu'il y avait aussi parfois de quoi ne pas sourire. Je recommande à tout le monde vos livres. Allez voir Les Fantasmes aujourd'hui et puis essayez de vous demander quand même, à l'occasion de ce film, quel est le désir qui vous tient le plus à cœur. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulo, avec à la technique Florent Bujon, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h sous le soleil de Platon.